Il est 12h30, vous écoutez bien France Culture. Et c'est l'heure des informations avec Ludovic Piétenu. Bonjour Ludovic.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. C'était une écrivaine, une journaliste, une romancière. Elle tenait au féminin des fonctions. Benoît Groult est décédé hier soir à l'âge de 96 ans. Nous lui rendrons hommage dans ce journal. Dans l'actualité politique et sociale, on se demandera quelle forme peut bien prendre la nouvelle journée de manifestation de jeudi contre la loi travail. Les syndicats veulent un défilé classique. La préfecture de police leur impose le rassemblement statique pour mieux encadrer, mieux sécuriser ce rassemblement contre les casseurs. Alliance, le premier syndicat de police, demande même le report de cette manifestation. Colère d'une partie de la classe politique. En solidarité avec les organisations syndicales, on fera le point avec Frédéric Seyss et Antoine Marette. L'invité du journal, Sébastien Chenu, élu du rassemblement Bleu Marine dans les Hauts-de-France, les anciennes régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Benoît Groult s'est éteint hier soir à Hyères dans le Var à l'âge de 96 ans. Dans les derniers instants de sa vie, elle parlait de son amour pour la pêche au large, pour le bateau, mais on la connaît surtout bien sûr pour ses écrits sur les féministes. Une écrivaine, je vous le disais dans les titres, elle tenait au féminin des fonctions, une femme du XXe siècle, témoin des bouleversements dans les rapports hommes-femmes, une féministe déclarée tardivement, mais à l'époque on ne pouvait pas faire autrement, disait Benoît Groult le 8 mars 2010. Elle était chez Laure Adler, dans Hors Champ, c'était évidemment sur France Culture. Elle avait à cette époque-ci 90 ans, elle parlait du fait d'être une femme âgée.
C'est vrai qu'on devient une femme invisible. On ne regarde plus dans la rue, personne. Le regard s'échappe, on est vraiment une femme invisible. Et je ne suis pas encore en maison de retraite, parce que j'ai la chance justement d'avoir continué mon métier. Personne ne m'a dit à 70 ans, vous posez votre stylo, c'est fini, vous êtes en retraite. J'ai encore pas mal de lectrices. Mais pour mes petites filles, par exemple, sous prétexte que je passe toute la journée sur un ordinateur, sur un portable, que je ne sais pas envoyer un SMS, elles me considèrent comme une has-been chez le Moyen-Âge. Elles me disent quelquefois, mais alors vous n'aviez pas la pilule de ton temps ? Ce qui prouve qu'elles n'ont pas lu mes livres. Elles ne savent pas que moi, je suis née avec zéro droit, que j'ai vu tout arriver, un par un, mes droits, pendant toute ma vie, y compris le droit à la contraception, à l'IVG. Et elles sont nées avec tous les droits dans leur berceau, et elles croient que nous sommes mortes depuis longtemps, nous qui avons conquis ces droits.
Benoît Groult chez Laure Adler, c'était en 2010. Bonjour Cécile Aspe.
Bonjour.
C'est son écrit de 1975, Ainsi soit-elle, qui a marqué la carrière de cette romancière et journaliste. Cette gouaille aussi qui vous a marqué personnellement.
Et oui, on vient d'entendre la gouaille de Benoît Groult. Elle disait qu'elle était née à elle-même à 35 ans. Il lui avait fallu en effet se défaire de son éducation bourgeoise et parisienne d'entre les deux guerres. Veuve à 26 ans, divorcée quelques années plus tard. Elle qui avait élevé ses deux filles. Elle qui avait été élevée pour décrocher un bon mari mènera son chemin seule en travaillant comme journaliste à la radio et à la télévision et en collaborant à différents magazines comme Elle et Marie-Claire. Mais son goût pour l'écriture la pousse à se lancer sur la scène littéraire, encouragée par l'écrivain Paul Guimard qui deviendra son époux. Ce sera d'abord avec sa sœur Flora, avec le journal à quatre mains, le féminin pluriel, avant d'écrire ce qui sera son grand succès, Ainsi soit-elle, en 1975. Benoît Groult a alors 55 ans. Face au féminisme radical des plus jeunes, elle s'adresse aux femmes de sa génération. Elle leur parle de leur complaisance à l'égard de leur mari, de leur sens du sacrifice. Rien ne changera profondément aussi longtemps que les femmes seront leurs propres ennemis, dit-elle. Une phrase toujours aussi moderne. 1 million d'exemplaires vendus, des traductions dans le monde entier. Benoît Groult devient une figure du féminisme. Dans ce livre, elle dénonce également pour la première fois les mutilations génitales féminines. Elle participe ensuite à tous les combats des femmes, s'engageant même, vous le disiez, dans la féminisation des noms de métiers. On peut donc désormais parler d'elle comme une écrivaine. La liberté reste le maître mot de sa vie. Liberté amoureuse qu'elle raconte en 1988 dans Les vaisseaux du cœur, une histoire d'amour et sexuelle dont on sentait qu'elle était en partie autobiographique. Elle défendait aussi la liberté de choisir sa mort, comment vieillir, comment mourir. C'est le thème de La Touche Étoile, paru il y a 10 ans. Elle avait alors 86 ans. Et puis 2 ans plus tard, elle avait revu et complété son autobiographie Mon Évasion. Benoît de Groult, c'était donc à la fois une écrivaine, une féministe et une femme qui avait un goût forcené pour la vie.
Merci Cécile Aspe.
Dans l'actualité sociale et politique, les regards sont tournés, Ludovic, vers la manifestation de jeudi.
Et de se demander à quoi ressemblera cette journée d'appel à manifester contre la loi travail, plus encore quelle forme prendra-t-elle. La préfecture de police de Paris, on en parlait hier midi, exige un rassemblement statique quand les syndicats, eux, bien sûr, appellent à défiler, en l'occurrence de Bastille à Nation. Alors les deux parties, préfecture et syndicats, se rencontrent ce matin pour en discuter. Pour l'exécutif, il s'agit de mieux encadrer, de mieux sécuriser cette manifestation. Le gouvernement lance même un appel à la responsabilité. Bonjour Frédéric Seyss.
Bonjour Ludovic.
Le débat politique monte autour de ce clivage plutôt étonnant, liberté d'interdire, liberté de manifester.
Oui, le tout enrobé de ce principe de responsabilité que le ministre de l'Intérieur et les syndicats se renvoient à la tête. Alors demander une manifestation statique pour un mouvement social, c'est inédit, au moins pour ces dernières années. Comment Bernard Cazeneuve le justifie-t-il? Ce matin, avant la réunion du groupe PS à l'Assemblée, il a insisté sur le degré de fatigue des forces de l'ordre et leur très grande mobilisation, à la fois pour l'Euro de football, à la fois aux frontières, dans le contexte migratoire actuel, dit-il, face aux risques terroristes également, et donc pour les manifestations. Une manifestation statique est plus facile à sécuriser, dit-on au ministère de l'Intérieur. Inepte, répond Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti communiste, chez nos confrères de France Info.
Cette liberté de manifestation, évidemment, doit se conduire dans la sécurité. Et en matière de sécurité, les organisateurs ont fait remarquer qu'on peut avoir les plus grands doutes sur le fait que ça permet de prévenir les incidents des casseurs en marge des manifestations. Au contraire, ça peut être encore plus dangereux pour la sécurité des manifestants. Donc l'argument de sécurité ne tient pas, mais en vérité, il n'est qu'un prétexte.
Alors pourquoi le débat se tend-il autant? D'abord parce que s'il y a de nouveaux incidents jeudi, évidemment chaque camp veut par avance en rejeter la faute sur l'autre. Et puis ensuite parce que nous sommes dans la dernière ligne droite. Avec l'arrivée des vacances, il sera forcément plus difficile de mobiliser massivement. D'autant que ce texte de loi, lui aussi, arrive à la fin de son cheminement parlementaire. La loi est actuellement examinée au Sénat. Elle doit revenir en séance à l'Assemblée nationale le 4 juillet, où l'article 49.3 sera probablement à nouveau utilisé, nouveau passage par le Sénat, puis adoption en lecture définitive à l'Assemblée nationale. Ce sera à la fin du mois de juillet. Alors, fin du chemin, pas tout à fait, car l'opposition ne manquera pas ensuite de saisir le Conseil constitutionnel. Résultat, si tout va pour le mieux pour le gouvernement, une promulgation en août au plus tôt.
Merci Frédéric Seyss. Je salue l'invité de ce journal, Sébastien Chenu. Bonjour.
Bonjour.
Élu du Rassemblement Bleu Marine dans les Hauts-de-France, Nord-Picardie. Nord-Pas-de-Calais, voilà, c'est plus simple presque. Sébastien Chenu, une réaction sur cette... Vous êtes plutôt, vous, liberté de manifester ou liberté d'interdire la manifestation?
D'abord, moi je trouve ça un petit peu original. On a toléré, et tant mieux d'ailleurs, mais une nuit debout, un certain nombre de manifestations depuis quelques semaines, qui ont eu d'ailleurs pour certaines d'entre elles des effets désastreux. Et là aujourd'hui on en arrive à se dire, mais finalement, enfin le gouvernement, on arrive à se dire il faudrait interdire les manifestations. Alors, où il y a un état d'urgence et ne date pas d'aujourd'hui, il est réel et on interdisait les manifestations dès le début, où cet état d'urgence est, comme je le pense, un coup de com'. Moi, je suis davantage favorable à ce qu'on laisse les gens manifester et qu'on maintienne l'ordre. C'est-à-dire que ces interdictions de manifester, en réalité, sont la démonstration de l'incapacité de l'État à maintenir l'ordre dans notre pays. Il a été débordé régulièrement dans toutes ces manifestations précédemment, et aujourd'hui, il est incapable de maintenir l'ordre. Alors, il dit tout simplement qu'il faut arrêter de manifester, qu'il faut interdire les manifestations. Qu'est-ce qu'on aurait dit si Marine Le Pen avait demandé l'interdiction des manifestations, si elle était en responsabilité, si elle était au pouvoir? J'imagine déjà les hurlements. Non, je crois que c'est un gouvernement dépassé. Moi, je suis pour la liberté et le maintien de l'ordre.
Bon, vous allez un tout petit peu vite, je vais vous arrêter, je vais reprendre 2-3 points. Incapacité, vous dites, des forces de l'ordre, peut-être à gérer l'ordre public, justement. L'état d'urgence permet, en théorie, une meilleure capacité des forces de l'ordre à surveiller, de plus de moyens, plus de disponibilité. Et vous dites, l'état d'urgence, c'est un coup de com'. C'est-à-dire...
Oui, bien sûr, parce que j'ai le sentiment, vous savez, avec les socialistes, l'autorité, c'est un peu comme la croissance. On en parle tout le temps, mais on la voit jamais. En réalité, l'état d'urgence, comment voulez-vous qu'il tienne d'une façon réelle dans ce pays, à partir du moment où les prédécesseurs ont coupé les ailes de nos forces de l'ordre? Je rappelle, moins 13 000 postes de policiers sous Sarkozy.
L'état d'urgence ne permet pas d'assurer mieux la sécurité des Français?
Pas avec des forces de l'ordre épuisées. Pas avec des forces de l'ordre épuisées par... l'encadrement des fan zones. Nous avions demandé que les fan zones ne puissent pas exister. Nous considérions que ce n'était pas une bonne idée, qu'il fallait maintenir l'euro, mais pas les fan zones. Pas avec les fan zones, pas avec Nuit Debout, pas avec les manifestations du soir au matin en France. Nous avons des forces de l'ordre qui sont épuisées et un état d'urgence qui en réalité ne fonctionne pas, qui est un peu comme un gruyère dans lequel il y a des trous, dans lesquels le gouvernement espère probablement, et il faut prier pour, passer à travers pour qu'il n'y ait pas de problème. Mais c'est assez irresponsable en réalité comme gestion des affaires.
Stéphane Robert du service politique est avec moi pour cette interview de Sébastien Chenu.
Oui, on a l'impression que votre discours n'est pas tout à fait clair sur cette question. Vous dites à la fois liberté de manifester, à la fois maintien de l'ordre. C'est comme ce qui s'est passé au Sénat avec le dépôt des amendements. Il y a eu des amendements déposés par les deux sénateurs socialistes lors du débat au Sénat il y a quelques jours là, et c'était des amendements alors qui proposaient la très libéraux, hein, la suppression du compte pénibilité, le doublement des seuils sociaux, la limitation du monopole syndical. Puis finalement, ça a été retiré au dernier moment. C'était un peu la cacophonie, l'impression. On ne comprend pas bien le discours du Front National sur cette loi de travail.
Écoutez, sur la loi de travail, c'est une loi qui, on le voit, ne créera aucun emploi. Nous y sommes hostiles, comme la majorité des Français, depuis le début. Alors, il ne s'agit pas de la détricoter ou de l'améliorer, c'était, je crois, la volonté de nos sénateurs, c'était d'essayer de se dire, bon, on a un texte, essayons d'en faire quelque chose. En réalité, aujourd'hui, cette loi, de tous les côtés, elle prend l'eau. Le gouvernement la détricote, la droite parlementaire la détricote, tout ça devient un vaste chantier. Nos sénateurs essayaient d'en faire quelque chose, ils se sont dit, on a une loi, on va peut-être essayer d'en faire un mieux, et puis finalement, on voit que à travers ce gouvernement qui ne souhaite pas donner la parole au peuple, ni même au Parlement d'ailleurs, en utilisant le 49-3, on a un vaste chantier. On est très loin d'une loi qui puisse donner un peu de gage au monde de l'entreprise et donner un peu de liberté, ou en tout cas moins de paperasse, par exemple. On est sur une loi qui favorise le communautarisme, par exemple. On est sur une loi qui ne crée aucun emploi. Donc, par conséquent, nous y sommes opposés depuis le début. Nous avons vu que nous ne pouvions pas faire évoluer ce texte. C'est aussi ça la réalité. Ce texte, le gouvernement nous empêche de le faire évoluer, tout comme il n'écoute pas les Françaises et les Français. Ce gouvernement n'aime pas vraiment la démocratie. Il propose d'interdire les manifestations. Il utilise le 49-3 pour une telle loi. Je reste dubitatif.
Sébastien Chenu, élu régional du Rassemblement Bleu Marine. Je vais vous présenter, avec Caroline Brouet, l'invité de la seconde partie de la Grande Table.
Si vous voulez, il est déjà dans le studio, c'est Alain Supiot. Il est juriste, c'est l'un de nos plus grands spécialistes du droit du travail. Il occupe la chaire État social et mondialisation du Collège de France. Il est là pour parler du travail demain, voire aujourd'hui, puisque ça commence aujourd'hui le travail demain.
Bonjour Alain Supiot.
Bonjour.
Je vous demande, vous, le spécialiste du droit du travail, vous qui avez bien sûr des idées pour réformer ce droit du travail. Moi, je serais curieux de savoir plutôt comment vous avez regardé et observé ces plus de 3 mois de mobilisation en France autour de cette loi, projet de loi.
Je ne crois pas que ce soit vraiment mon rôle de commenter l'actualité politique immédiate. Ce qui frappe, bien sûr, c'est qu'on est parti tout de suite du mauvais pied, si je puis dire, puisque le Code du travail prévoit lui-même, c'est l'article premier, que toute réforme de droit du travail doit être précédée par une négociation interprofessionnelle. C'est ce qu'on appelait la loi Larcher. Et on est parti sur une autre voie de séquence, de rapport, de think tank. Depuis le début, l'affaire a été mal engagée. Donc ce qui se passe aujourd'hui résulte, me semble-t-il, de cette façon, de cet irrespect au départ quand même, d'une disposition qui était la première du Code du travail. Alors c'est paradoxal, s'agissant d'un texte qui prétend donner plus de place à la négociation, d'avoir procédé de la sorte.
En tout cas, le gouvernement Alain Supiot, merci, a bien du mal à gérer ces défilés et se demande, donc on le disait, s'il faut qu'il soit statique ou si les organisations syndicales auront le droit de défiler jeudi. Là, toute la question est de savoir comment assurer la sécurité de ce défilé. Bonjour Antoine Maret.
Bonjour.
Donc manifestation statique, défilé, le problème surtout Antoine Maret, ce sont les casseurs.
C'est toute la question. Alors on compte une centaine de personnes environ à chaque manifestation. Il s'agit de groupes anarchistes violents. Ils s'en prennent aux policiers, parfois de façon très violente. Et ils obéissent à une logique politique, car ces activistes sont anticapitalistes, contre toute forme d'autorité. Ils s'attaquent notamment aux symboles du capitalisme, comme par exemple les banques. Ils ont pu ainsi détruire des guichets sans chercher à les piller. Leur objectif, c'est la convergence des luttes, et pour cela, tout symptôme d'affaiblissement du gouvernement est une opportunité pour agir. Selon le gouvernement, la CGT entre entretient une relation ambiguë avec les casseurs. Le ministre de l'Intérieur affirme même que des militants du syndicat ont participé à l'agression des forces de l'ordre la semaine dernière. Et effectivement, des images de vidéosurveillance divulguées par la préfecture de police de Paris montrent des manifestants revêtus d'une chasuble aux couleurs de la CGT desceller des pavés et les brandir. La préfecture avance qu'à l'issue du défilé, une centaine de manifestants de la CGT venus de l'Ouest et du Havre a participé aux actes de violence. Réponse du syndicat, il n'y a aucune relation entre ce que font les casseurs et les manifestants. Des cadres de la CGT se font eux-mêmes caillasser. Et à gauche, on s'interroge sur une alliance de circonstances entre le gouvernement et les casseurs. Pour l'eurodéputé vert Yannick Jadot, la violence est un instrument pour disqualifier les mouvements de protestation.
Merci beaucoup Antoine Maret. Sébastien Chenu, élu du Rassemblement Bleu Marine. Il y a l'air d'y avoir quand même aussi des divergences au sein de votre rassemblement, au sein du Front National, entre Marion Maréchal Le Pen et Marine Le Pen. La première semble être pour l'interdiction de ces manifestations et Marine Le Pen, elle, pour les autoriser mais mieux les sécuriser.
Et moi, je pense
comment
que,
on rassemble un peu votre parti.
Moi, je pense que dans cette problématique, ce qui est mis en cause, c'est l'autorité de l'État. Et en réalité, on ne se poserait pas la question si l'État avait d'abord procédé, comme monsieur l'a dit, par une vaste concertation sur cette loi-là, et qu'ensuite son autorité continuait à être affirmée. Alors, je n'exonère pas d'ailleurs la CGT d'un certain nombre de responsabilités. La direction de la CGT, en ayant fait l'affiche que vous connaissez bien hostile aux forces de l'ordre, a des responsabilités dans l'état d'esprit qui peut animer des casseurs ou des gens qui essayent de s'infiltrer. Mais je n'oublie pas que le premier responsable, c'est l'État. Et que par conséquent, lorsqu'on en arrive à un tel point de rupture du dialogue social, ou un dialogue social qui n'existe pas, qui va d'ailleurs à l'encontre des promesses de François Hollande également, sur la restauration du dialogue social lorsqu'il a été élu, eh bien il ne faut pas s'étonner ensuite qu'on puisse se retrouver avec de telles situations. Non, nous sommes attachés à la liberté de manifester, nous l'avons redit. Nous souhaitons aussi que soient démantelées ces organisations d'extrême-gauche, anarchistes, qui depuis un certain nombre d'années polluent le débat public. D'ailleurs, je note que nous sommes victimes régulièrement de ces organisations d'extrême-gauche, les mêmes, qui viennent perturber nos rassemblements, nos meetings tout à fait démocratiques, et qu'aujourd'hui, on commence à s'intéresser à eux, parce que, non content de perturber l'expression du Front National, ils viennent aujourd'hui perturber la vie de la société en général. L'État doit réaffirmer son autorité.
Des radicalités des deux côtés qui écrivent quand même beaucoup les débats,
souvent. Nous concernant, nous n'avons aucune espèce de rapport de radicalité avec ces gens-là. Nous ne cassons pas les rues, nous ne cassons pas les commerces, nous sommes des gens respectueux et responsables.
Stéphane Robert, une question plus politique sur l'année qui vient.
Dans l'actualité politique, finalement, il y aura une primaire à gauche, une primaire à droite. Vous n'en organisez pas de primaire.
Non, ça ne vous a pas échappé. Mais pourquoi en organiser une?
Vous avez bien des divergences au sein de vos partis.
Non, nous avons des sensibilités, mais enfin, je crois que l'ensemble des militants, des adhérents, sont rassemblés derrière Marine Le Pen, derrière son programme. Marion Maréchal, Florian Philippot, Louis Alliot, Steve
Brouillois. Vous ne donnez pas la parole au peuple.
Moi-même, nous avons donné la parole à nos militants et à nos adhérents lors de la convention de Marseille il y a un an et demi. Ils ont validé un programme. Ils ont réélu Marine Le Pen et l'ensemble de l'équipe pour porter les couleurs du Front National au présidentiel. Donc, on ne veut pas copier, si vous voulez. Moi, je pense que dans la période actuelle, les bidouillages, les tambouillages, les préoccupations tactiques de François Hollande ne correspondent pas aux attentes des Français.
Mais des primaires, concept de primaire,
oui,
ça c'est un bidouillage.
D'accord, mais moi je ne cherche pas à copier ce qui se fait ailleurs. Chez nous, on est d'accord. On est d'accord sur notre candidate, on est d'accord sur notre programme. Pourquoi voulez-vous qu'on se lance dans des histoires pareilles pour satisfaire les commentateurs politiques? Nous sommes des acteurs du monde politique, nous allons arriver aux responsabilités. Nous n'avons pas, nous, comme François Hollande, besoin de tactique, de bidouillage pour essayer de remonter, pour essayer d'obtenir les suffrages de nos militants. Marine Le Pen les a à 100%.
On a quand même vu au rendez-vous de Béziers quelques tentations contestataires avec Robert Ménard qui a créé un mouvement host à droite avec potentiellement d'autres candidats qui pouvaient émerger à l'extrême droite. C'est pas légitime, ça.
Vous savez, moi je pense que tous ceux qui veulent être sur la photo sont les bienvenus. Robert Ménard a rappelé son soutien à Marine Le Pen. Je rappelle aussi que le vendredi, Robert Ménard commençait par dire « Je veux travailler avec l'UMP et le Front National ». Il a terminé le dimanche avec le départ de Marion Maréchal et avec une UMP qui a dit « Jamais on travaillera avec lui ». Donc, on peut pas dire que ce soit particulièrement réussi comme idée que c'est ce rassemblement de Béziers, parce que moi je crois que le rassemblement, il se fait aujourd'hui entre ceux qui croient encore à la patrie, à la souveraineté de la nation, et puis les mondialistes de l'autre côté. Chacun a le droit de défendre une conception dans le débat politique, mais je crois qu'aujourd'hui, la différence, elle se fait entre ces deux camps, entre ces deux espaces politiques, et ce n'est pas le rassemblement de quelques personnes qui veulent continuer à penser entre elles qui permettra aujourd'hui de planter ce décor. Marine Le Pen souhaite rassembler tous les patriotes, d'où qu'ils viennent.
Merci Sébastien Chenu, élu du Nord des Hauts-de-France, pour le rassemblement Bleu Marine.
Un sondage surprenant que nous livre l'IFOP à la demande de l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture.
Surprenante cette enquête, en effet, Caroline. Elle révèle d'abord une plus grande acceptation de la torture par les Français. Figurez-vous que plus d'un sondé sur deux accepterait qu'une personne suspectée d'avoir posé une bombe qui serait prête à exploser, eh bien, on pense que cette personne pourrait très bien être soumise à des décharges électriques. Mais aussi, nous dit le délégué général de l'ACAT, Jean-Étienne de Linares, que vient d'appeler Marie-Pierre Véraud, il nous dit que ce sondage révèle aussi une grande ignorance de la torture.
La majorité des Français pensent que la torture concerne une petite cinquantaine de pays. Eh ben non, ça concerne un pays sur deux, c'est-à-dire plus de 100. Ensuite, les Français, ils considèrent à une écrasante majorité, 84%, que la torture est le fait de groupes non étatiques, d'organisations criminelles. Ils voient la main de Daesh pour faire court. Le problème, c'est que, évidemment, que ces groupes pratiquent la torture et les assassinats. Sauf que majoritairement dans le monde, la torture, elle est commise par des agents de l'État, c'est-à-dire des militaires, des gardiens de prison, des policiers, des gens de service secret. L'immense masse des actes de torture, ce sont ces gens-là qui la commettent.
Il y a aussi une ignorance sur les personnes qui sont victimes de ces actes de torture.
Tout à fait. Ça va d'ailleurs dans le même état d'esprit. La plupart des Français vont considérer que les plus importantes victimes sont les minorités ethniques et religieuses. Et on y voit le même effet Daesh, entre guillemets, dont je parlais à l'instant. Mais il ne faut pas oublier que les principales victimes, c'est les opposants politiques, parce que la torture est un moyen redoutablement efficace pour faire taire, non pas pour faire parler, mais pour faire taire toute forme d'opposition, et puis les délinquants de droit commun.
Et c'est ce que vous disiez, on la pense efficace, on pense que l'on va parler et révéler des informations quand on est soumis à la torture, ce que l'expérience dément.
Ce ne sont pas nous, des droits de l'hommiste bel an, comme on dirait quelquefois, qui affirmons, ce sont des membres de services secrets qui depuis des lustres, je pense en particulier à des membres de services secrets israéliens, qui depuis des lustres ont dit que la torture était le plus mauvais moyen pour obtenir des informations fiables. Et puis le Sénat américain qui vient de complètement démonter tout le travail qui a été fait par l'administration Bush et la torture qui y était pratiquée au nom de la lutte contre le terrorisme pour montrer que c'était totalement inefficace. La torture, c'est le plus mauvais moyen de s'y prendre. Et quand je vois que 54% des Français, vous vous rendez compte, plus de la moitié, estiment que c'est un moyen qui peut se justifier, c'est terrifiant.
Jean-Étienne de Linares, le délégué général de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, répondait à Marie-Pierre Véraud.
Chaque année en France, 48 000 personnes meurent à cause de la pollution.
La pollution aux particules fines cause en effet un décès sur 10 en France, nous dit l'Agence nationale de santé publique. Bilan désastreux livré ce matin. Hélène Masculier, bonjour.
Bonjour.
Dans cette étude, les experts disent aussi que la plupart de ces décès pourraient être évités.
Oui, la pollution serait la troisième cause de mortalité évitable en France, juste après l'alcool et le tabac. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce ne sont pas seulement les grandes villes qui sont dans la ligne de mire, les zones rurales et les moyennes communes aussi sont concernées. La seule solution, c'est donc de réduire le taux des particules fines, ces petites poussières inférieures à 2,5 micromètres, qui passent toutes les barrières de notre corps pour venir s'infiltrer dans le sang. Et c'est la pollution au jour le jour, dans la durée, qui est la plus dangereuse. Cette exposition quotidienne est la cause de maladies chroniques et respiratoires et de nombreux cancers. Selon l'étude, une exposition quotidienne aux particules fines peut réduire l'espérance de vie de 9 mois et même jusqu'à 2 ans si l'on habite à Paris. Mais il est possible de réagir. La modification de la composition des carburants, la mise en place d'un péage urbain, la réduction des émissions industrielles sont autant de leviers d'action. Ou bien chacun à son niveau privilégie le vélo pour ses déplacements. En somme, pas de mesures miracles, mais des actes qui pourraient bien sauver des vies. Car selon les experts, si toutes les villes atteignaient le niveau des communes françaises les moins polluées, près de 34 000 décès pourraient être évités chaque année. Et respecter les seuils de pollution serait bénéfique. À suivre les normes du Grenelle de l'environnement, on pourrait sauver 3000 personnes et même 17 000 personnes si l'on se réfère aux critères de l'Organisation mondiale de la santé. De nombreuses communes se sont déjà engagées dans cette voie, mais il reste encore bien du chemin à parcourir.
Merci. Merci Hélène Masquelier.
À l'étranger, dans le golfe Persique, de vives tensions sont signalées à Bahreïn.
Le petit royaume de Bahreïn, à majorité chiite, mais dirigé par des sunnites, un royaume étroitement lié à l'Arabie Saoudite voisine, qui vit de nouvelles tensions avec une partie de sa population chiite. Le plus haut dignitaire chiite, Cheikh Issa Kassem, a été déchu de sa nationalité. Bonjour Eric Biegala.
Bonjour Ludovic.
Les autorités l'accusent de servir des intérêts étrangers, d'encourager le confessionnalisme et la violence. Ça n'est pas sans provoquer quelques réactions.
Oui, il y a des réactions iraniennes, bien sûr. Alors, le ministère des Affaires étrangères à Téhéran a répondu de manière à peu près diplomatique, par un communiqué hier, estimant que cette déchéance de nationalité anéantissait tout espoir de dialogue et d'approche pacifique entre la majorité chiite du petit royaume et la famille régnante sunnite, elle. En revanche, le général iranien Qassem Soleimani est allé pour sa part beaucoup plus loin, prédisant une véritable révolte violente dans le royaume insulaire, une sanglante insurrection, ce sont ses termes, et dans la bouche du général, ces termes-là résonnent comme une véritable menace. Qassem Soleimani, en effet, c'est le patron de la force Al-Quds des gardiens de la révolution de Téhéran, sorte de mélange de services secrets et de forces spéciales, opérant exclusivement à l'étranger. Qassem Soleimani est par exemple à l'origine de l'organisation des milices chiites en Irak, ou de la participation de ces milices, Hezbollah libanais compris, en Syrie, aux côtés des forces du régime de Bachar al-Assad. Si, bref, quand ce général, qui ne s'exprime pas souvent en public, fait de telles déclarations, parle d'un possible soulèvement armé des chiites à Bahreïn, on peut lui faire confiance, il sait très précisément de quoi il parle. Les groupes armés chiites, piloté en sous-main par l'Iran, c'est sa grande spécialité.
Eric Biegala, la Russie restera sous le coup de sanctions européennes. Encore 6 mois de très lourdes sanctions économiques prises en raison du conflit ukrainien. Et puis la Russie, toujours sous le coup de sanctions sportives, après le rapport explosif de l'Agence mondiale antidopage. Le CIO, le Comité international olympique, devrait dans les toutes prochaines minutes confirmer l'impossibilité de participer cet été au JO de Rio pour les athlètes russes. Je vous donne un court mot de météo. Ce sera des nuages sur la moitié nord, du soleil au sud. Journal préparé avec Yacine Bouzard. Prochaine édition, 18h, t'arraches les gueules.